40 degrés dehors, il fait alors 34, 36, 38 degrés en classe. Avec la canicule, les écoles se transforment en bouilloires thermiques. Des centaines d'écoles et de collèges ont donc décidé d'aménager leurs horaires, en fermant l'après-midi par exemple. Mais avec le dérèglement climatique, ces vagues de chaleur sont vouées à se multiplier. Il faut donc désormais imaginer de nouveaux bâtiments. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un ingénieur qui travaille justement sur l'adaptation des écoles au changement climatique, Amaury Fievé. Il réfléchit à des leviers low-tech pour adapter les bâtiments faciles, bon marché, rapides, moins chers que de lourdes rénovations. Il croit que ces idées peuvent s'appliquer aux milliers de bâtiments scolaires du pays et il le prouve. Exemple à l'appui, de simples persiennes installées en quelques heures peuvent faire chuter la température de façon vertigineuse. Bref, les élus n'ont plus qu'à se saisir de cela. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Quand tu te retrouves dans une classe d'environ 10 mètres carrés avec 40 personnes pendant 2 heures, ça monte vite quoi.
Je trouve qu'il y a une chaleur un peu extrême dans les classes. Et pour moi, j'aimerais bien un changement quand même parce que parfois pour se concentrer, écouter le cours, c'est vraiment dérangeant.
Depuis ce mercredi 17 juin, la canicule touche une nouvelle fois la France cette année. Les températures frôlent parfois les 40 degrés avec un pic attendu dimanche ou lundi et ça se ressent dans les établissements scolaires. Témoignage d'un proviseur de collège à Paris.
Alors là, les températures dans les salles de classe sont vraiment trop fortes. On est à 35, 36 dans les salles de classe, ce qui met en danger en fait vraiment la santé des élèves et des personnels.
Sandrine Batty, elle est enseignante responsable d'un syndicat. Elle va encore plus loin.
C'est un peu de la maltraitance, mais bon, qu'ils soient chez eux ou à la maison, on pourrait dire que c'est la même chose. Mais sauf que là, on est quand même dans une position de travail. C'est quelque chose que les pouvoirs publics, pour l'instant, ils s'emparent pas. C'est toujours la même chose. Tous les ans, ça se répète et il n'y a rien qui se passe.
Les lycéens étant en pleine période d'examen, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, prend des mesures.
S'agissant du baccalauréat, nous avons un peu plus de 4000 candidats sur le million qui va passer les épreuves. Un peu plus de 4000 candidats dont les oraux qui devaient se tenir lundi après-midi ou mardi après-midi sont décalés de quelques jours.
Mais ce genre de situation est voué à se répéter. Avec le dérèglement climatique, de telles vagues de chaleur vont se multiplier, s'intensifier et surtout se faire plus précoces dès mai-juin et plus tardives jusqu'à la rentrée de septembre. Des canicules en dehors des vacances d'été donc, ça force les établissements scolaires à s'adapter. Au collège Anne Frank à Paris, la directrice voit venir le brevet. Elle a décidé
d'anticiper les choses, bien sûr, d'identifier les endroits les plus frais pour installer les élèves dans les meilleures conditions. Et enfin, nous avons décidé également de prendre sur notre budget propre pour investir sur l'achat de 9 climatiseurs.
Et pour les cours, le maire de Tours, écologiste, a pris une décision radicale. Les écoles seront fermées lundi et mardi après-midi, journée de canicule plus chaude encore que les précédentes.
Les enfants vont arriver un peu plus tôt, commencer les enseignements un peu plus tôt dès lundi matin, donc 8h au lieu de 8h30, jusqu'à midi au lieu de 11h30, donc une plage d'enseignement un peu plus longue. Ensuite, repas froid et ensuite, on demandera aux parents de récupérer leurs enfants.
Même chose à Auxerre, mais avec des solutions de garde pour les parents.
Il y a une continuité pédagogique qui est en place le matin.
L'adjoint au maire chargé de l'éducation.
Mais l'après-midi, effectivement, les écoles sont fermées et nous avons mis en place un accueil. Un service d'accueil minimum qui permet de rassembler les enfants dans des endroits qui vont être soit climatisés, soit au moins beaucoup plus frais que ce qu'ils peuvent avoir malheureusement à l'école.
Cette année, le ministère n'a pas donné de consigne générale. 784 écoles et collèges ont tout de même décidé d'aménager leurs horaires. L'an passé, plus de 2000 écoles avaient fermé face aux fortes chaleurs. Il faut dire que la majorité des bâtiments scolaires en France est loin d'être adaptée à ces températures. 80% des écoles primaires ont plus de 50 ans. Beaucoup sont construites sur le modèle type Pailleron. Grande structure métallique, grande baie vitrée, schéma parfait pour en faire des bouilloires thermiques. Alors il y a des travaux de rénovation à faire. Exemple à Clamart, avec l'adjoint au maire.
Donc c'est vraiment un environnement, c'est 1200 m² de cours qu'on appelle Oasis et qui est là vraiment pour créer un véritable îlot de fraîcheur. Donc des degrés en moins. Nous utilisons des matériaux naturels, le bois domine, les charpentes sont en bois, des copeaux, des brumisateurs.
Mais la France compte 45 000 écoles, 5 300 collèges, 2 300 lycées publics. Difficile donc de rénover en profondeur ces milliers de bâtiments. Il y a heureusement des alternatives. À Clamart, toujours, la vingtaine d'autres écoles a subi des aménagements plus légers.
Nous avons mis à disposition dans toutes nos écoles, dans nos 26 écoles comme vous avez dit, dans nos 232 classes, des ventilateurs pour les enseignants, pour le périscolaire. Et également, nous avons aménagé des îlots de fraîcheur dans chaque école avec des brasseurs d'air, donc ce sont des ventilateurs plus puissants. Et nous avons mis aussi à disposition des climatiseurs mobiles, notamment pour les maternelles et les dortoirs, pour nous assurer que les enfants puissent se reposer, notamment les petites sections, le plus confortablement possible.
L'autre astuce, aménager le quotidien.
On adapte le repas, on appelle ça les repas fraîcheurs. Donc ce sont le menu, c'est des menus à base de fruits, de légumes frais, des sorbets, des glaces, toujours dans cette optique de proposer aux enfants un environnement scolaire le plus adapté au contexte actuel.
Mais parfois, les municipalités ne bougent pas. À Bois-Colombes, il a fait parfois 38, 40 degrés dans les classes. Les parents prennent alors des dispositions, ce que relate une conseillère municipale d'opposition sur BFM TV.
Cette école, elle est tout en baie vitrée. Donc, en fait, le soleil tape directement. Alors, c'est une école qui a été refaite il y a un peu plus de 15 ans maintenant, mais qui n'a pas été, en fait, pensée pour des très, très fortes chaleurs. Donc, ils ont demandé au dernier conseil d'école l'autorisation eux-mêmes de venir installer des couvertures de survie pour essayer de maintenir une température acceptable dans les classes.
Bonjour Amaury Fievé.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, doctorant, chargé du projet Racine. Racine, qu'est-ce que c'est ?
Absolument. Le programme Racine, au sein du programme MACTE, est un programme de recherche-action, donc la recherche qui est menée directement sur le terrain. Et nous, on s'intéresse à l'adaptation des écoles primaires aux canicules, avec une démarche qu'on va appeler low-tech. Donc en utilisant d'une part des techniques simples, accessible, et d'autre part en travaillant beaucoup sur l'organisation, la gouvernance liée à l'école.
Et vous allez nous détailler tout ça, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il fait si chaud dans les écoles françaises aujourd'hui ? Parce que nos écoles sont trop vieilles, parce qu'elles ont été mal pensées, parce qu'elles ont été bâties au 19e dans les années 80 et qu'on ne pensait pas au réchauffement climatique qui n'existait pas ?
Il y a déjà ça, un dérèglement climatique qui fait que la chaleur est plus intense, plus de canicules, et surtout les canicules apparaissent de plus en plus tôt et de plus en plus tard dans l'année, donc en période scolaire. Et on doit composer avec un parc de bâtiments qui n'est pas du tout préparé à faire face à des canicules. En gros, on a des écoles qui laissent rentrer la lumière, donc avec très peu de protection solaire.
Ces grandes baies vitrées, là, une aberration.
Absolument. Intéressant pour l'hiver, mais moins intéressant pour l'été, beaucoup moins. On a des écoles qui ne ventilent pas la nuit. Et ça fait un cocktail explosif, c'est l'effet bouilloire. Donc la journée, on emmagasine de la chaleur, ça a plus les apports internes des enfants qui dégagent aussi de la chaleur. La nuit, on ventile pas, et tout au long de la canicule, les écoles montent en température et ne descendent pas.
La végétalisation, on n'en a pas parlé. Est-ce que les cours des écoles sont trop peu arborés ?
Absolument. Alors le sujet des arbres, c'est l'ombre. Le fait d'apporter de l'ombrage dans la cour de l'école, dans les vitrages, dans les murs, c'est ça qui va faire grandement diminuer la température. Et ce qui est assez dramatique, c'est que ces dernières décennies, on a couper les arbres pour des questions budgétaires, parce que c'est moins d'entretien, moins de nettoyage. Il faut faire marche arrière à toute vitesse.
Et vous parliez de votre projet qui s'intéresse au low-tech, c'est-à-dire à ces adaptations petit à petit. Ça s'oppose à des rénovations thermiques plus importantes. Pourquoi ne pas privilégier ces rénovations importantes ?
On privilégie les rénovations importantes si on peut. Une rénovation énergétique, c'est plusieurs millions d'euros. C'est plusieurs années, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ingénierie.
Pour faire quoi ?
Donc on va mettre de l'isolation, on va changer les systèmes de chauffage. Donc en hiver, ça marche bien, on sait faire de beaux projets. En été, c'est pas ça. Et ce qu'on constate, et c'est assez terrible, c'est qu'aujourd'hui, les projets de rénovation ne sont pas au niveau sur le confort d'été, sur la surchauffe. On a des bâtiments qui sont construits récemment. On a des bâtiments qui sont rénovés récemment où il fait trop chaud.
Et donc la solution qui semble s'imposer, c'est cette low-tech sur laquelle vous travaillez. Ça ressemble à quoi ? Sur quoi est-ce qu'on peut ajuster les bâtiments comme vous y travaillez ?
Les solutions techniques sont assez simples. Ça tourne autour de trois axes. On a un axe protégé, faire en sorte que le soleil ne rentre jamais dans le bâtiment, que ce soit en occupation ou hors occupation. On a un deuxième axe sur décharger, évacuer la chaleur la nuit en faisant circuler dans le bâtiment un air qui est plus frais. Et un axe sur rafraîchir. Là, on va mettre en place des systèmes techniques brasseurs d'air au plafond qui font améliorer le ressenti thermique ou des systèmes de brumisation. Les trois combinés fonctionnent très bien. On privilégie les protections solaires extérieures. Le top du top du top, ce sont des volets extérieurs en bois, peints en blanc, des types persiennes. Ça marche très bien. Bon, on ne peut pas en mettre partout. On fait au mieux. Donc, on peut mettre ensuite des protections extérieures en brise-soleil. Brise-soleil, ce sont des lames en bois, souvent, qui sont inclinées, de sorte à, d'une part, empêcher le soleil de rentrer directement, et d'autre part, à laisser un petit peu de luminosité rentrer dans la pièce.
Décharger sur ce second axe, comment ça se passe ?
Ça se passe difficilement. Le souci dans les écoles, ce sont les problématiques d'intrusion. Donc, nous, c'est ça qu'on essaie de débloquer. Ouvrir une école la nuit, c'est s'exposer à des risques d'intrusion.
Parce que c'est bien l'enjeu, si on veut rafraîchir une école en période de canicule, c'est la nuit qu'on aère.
Les gains de température sont énormes. Si on fait ça sur toutes les écoles, ça nous économise beaucoup, beaucoup d'énergie. Le sujet, c'est d'empêcher des personnes de rentrer. Plusieurs solutions, on peut mettre des dispositifs anti-intrusion, on peut bloquer les fenêtres avec des barreaux, pas obligé de faire une prison, on a des barreaux qui sont très jolis. On peut mettre en place du gardiennage. Ça, on a des écoles dans le programme qui le mettent en place, soit un gardiennage citoyens, donc des personnes bénévoles qui se relaient la nuit pour laisser les écoles ouvertes, ou même des agents de la commune qui font des heures supplémentaires et qui pendant une semaine ou deux vont vivre dans l'école la nuit pour surveiller.
Et puis il y a la question de rafraîchir ces bâtiments, comment ça se passe ? C'est la clim ou il y a des alternatives ?
On a des alternatives. Avant d'aller à la clim, on a par exemple les brasseurs d'air qu'on installe au plafond qui sont très simples. C'est un moteur avec des pales, on brasse l'air, donc on ne fait pas diminuer la température de l'air, mais on améliore le confort par phénomène de convection. Donc l'air qui passe sur la peau va nous voler de l'énergie thermique. On consomme à peu près 100 fois moins qu'une climatisation. Ce sont des techniques qui sont plus simples, plus réparables. Pour nous, il faut en mettre partout où c'est possible d'en mettre.
Et quel est le coût de ces mesures-là ? On parle des persiennes, des brasseurs d'air, de laisser les écoles ouvertes la nuit. Vous disiez plusieurs millions d'euros pour une rénovation lourde. Ces idées-là, low-tech, plus douce, ça se chiffre à combien ?
C'est moins cher. Je peux vous donner des ordres de grandeur, puisqu'on a fait des vrais travaux dans des vraies écoles. Selon la taille de l'école, selon la difficulté, on va dire, architecturale, on est aux alentours de entre 25 000 et 120 000 euros par école.
Ce qui est accessible pour une commune ?
Absolument. Il y a quelques aides qui existent, alors qui sont en train de baisser, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais ce sont des budgets accessibles pour une commune. Et on a même des communes qui avaient des budgets limités. Ils ont fait les travaux eux-mêmes en régie. Ils ont pris des bois de récupération. On a pris, voilà, les agents de la collectivité s'y sont mis. On peut même imaginer de faire des chantiers participatifs avec les parents.
Ah ouais, ça se fait.
Ça se fait, et ça se fait même plutôt bien. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas d'innovation technique à créer des volets et à les installer sur les fenêtres.
Quels sont les effets ? Vous les mesurez déjà sur ces écoles qui ont été rénovées ? Quand il fait 40 degrés comme ces jours-ci, on sait que certaines écoles à l'intérieur, ça peut monter à 30, 35 degrés lorsque c'est rénové avec vos pratiques.
Absolument. Donc on a déjà des premiers résultats sur des écoles qui ont réussi à le mettre en place en un an. On gagne déjà 3-4 degrés, j'ai envie de dire brut, c'est-à-dire la température baisse de 3 ou 4 degrés, sans compter l'effet des brasseurs d'air. Et là, on peut monter à 2-3 degrés de ce qu'on va appeler confort ressenti. Donc on a déjà aujourd'hui des différences de, dans une école, on est monté à 8 degrés de différence. En comparant, bien sûr, les canicules, tout n'est pas comparable, mais on a déjà des résultats.
Ce sur quoi vous travaillez, ça reste expérimental. Combien d'écoles se sont prêtées au jeu ?
On a eu 15 écoles l'an dernier, donc on a lancé un appel à volontaires en avril 2025. Donc 15 écoles qui ont fait une première année d'expérimentation. On en a pris 15 de plus cette année, donc on en a 30 aujourd'hui. Mais on voit déjà la méthode disséminée. On a déjà des écoles qui essaient de le reproduire. On a beaucoup de collectivités qui nous appellent. On a des résultats, ce sont des vrais travaux. On a des résultats et on travaille aussi beaucoup sur l'approche organisationnelle. Comment la gouvernance de l'école, comment l'organisation d'une école peut intégrer la gestion de ces canicules.
Alors ça, c'est intéressant. Comment ça se passe ? Au-delà des travaux qu'on peut faire, comment est-ce qu'une école peut s'organiser face à la canicule ?
Difficilement. On se rend compte, puisqu'on reste sur un programme de recherche, donc on constate qu'il y a beaucoup de blocages organisationnels, notamment la responsabilité. La responsabilité, aujourd'hui, elle est partagée entre plein d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne se comprennent pas toujours, qui ne se parlent pas toujours. Le personnel de l'école est salarié de l'éducation nationale, en tout cas le personnel enseignant. Les ATSEM, le personnel technique, le personnel de la cantine, est salarié de la commune, le bâtiment appartient à la commune. On a aussi l'académie qui a son mot à dire, on a la préfecture qui va avoir son mot à dire. Donc,
ça fait beaucoup d'acteurs qu'on a l'habitude de connaître le reste de l'année, mais en quoi est-ce que c'est problématique lorsqu'il faut faire face à des fortes chaleurs ?
C'est problématique parce qu'il faut réussir à faire parler tout le monde, à prendre des décisions où tout le monde est un peu d'accord, et notamment la personne qui va prendre la décision pour les travaux, ce sont les élus. Et les élus, ils ont beaucoup de contraintes budgétaires, réglementaires, ils ont aussi beaucoup de choses à gérer. Donc c'est très compliqué en un an de réussir à mobiliser suffisamment les élus pour mettre en place les travaux. Même des élus motivés ont beaucoup de choses à faire et ce sont des acteurs qui sont généralement assez peu disponibles.
Donc les techniques sont là, c'est plutôt accessible si on vous écoute bien, c'est plus une question de mentalité en fait pour faire changer des choses de ce point de vue-là.
C'est une question de culture. Il faut changer de culture. On ne s'en sortira pas uniquement avec des solutions techniques, que ce soit les solutions low-tech que j'ai présentées ou la climatisation, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut changer notre façon de vivre. En Espagne, à partir du mois de mai, ou dès qu'il fait très chaud, les cours s'arrêtent à partir de 15h. Ils ont des vacances plus grandes. Dans certains pays, on ne travaille pas entre 9h et 18h. On fait la sieste l'après-midi et on travaille le matin et le soir. Nos réseaux en France, nos infrastructures électriques, ferroviaires, ne sont pas construites pour gérer des canicules de si haute intensité. Donc il faut tout revoir.
C'est 2 ans, le temps des travaux, en gros, pour mettre au niveau les écoles avec ces techniques low-tech.
On a des écoles qui ont réussi à mettre en place la démarche presque en entier en un an, ce qui est exceptionnel. À l'échelle d'une commune, c'est extrêmement rapide. Nous, on va continuer sur une deuxième année. Les écoles auront 2 ans pour mettre ça en place. L'objectif étant d'adapter des dizaines de milliers d'écoles d'ici à 2030. Nous, on a un projet expérimental, mais l'objectif est bien de déployer la démarche, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, beaucoup plus largement, et surtout, très important, une démarche qui soit accessible. Il ne faut pas être ingénieur ou docteur en physique pour adapter une école.
Oui, c'est ce que vous dites, la question de ces persiennes. Une fois qu'on a l'idée, il suffit de mettre en œuvre et avec les agents notamment de la commune, ça se fait.
Ça se fait, ou en tout cas, il ne faut pas de l'innovation technique, mais plutôt de l'innovation sociale. Ça se fait, mais peu d'écoles l'ont fait aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui, à part chez nous, en fait, de trouver des écoles qui se sont adaptées aux fortes chaleurs. Et cette expérimentation, par l'exemple, de montrer que c'est possible, on le fait. C'est pas simple, mais on y arrive et on espère que ça suffise à diffuser la démarche.
L'idée, c'est peut-être qu'un jour, on construira aussi des écoles qui n'auront pas besoin d'être rénovées. Est-ce que c'est possible de bâtir à l'origine des écoles qui sont résilientes, qui peuvent résister face à ces fortes chaleurs ?
C'est possible en ne respectant pas la réglementation, ou je précise, en allant beaucoup plus loin. Aujourd'hui, si on respecte la réglementation, si on fait tout comme il faut, notre école, en général, surchauffe. Parce que les réglementations sont obsolètes, ne prennent pas en compte la vraie vie, les vrais usages. L'outil de la réglementation aujourd'hui, on peut atteindre les objectifs de confort d'été, de surchauffe, en partant du principe qu'on ouvre les fenêtres la nuit. Mais dans la vraie vie, ça n'arrive jamais, parce qu'on n'a pas pris en compte les risques d'intrusion. Donc, sur des logiciels de simulation, des ingénieurs comme moi, on va partir du principe d'une hypothèse qu'on va ouvrir la nuit. Dans la vraie vie, ça ne s'applique jamais.
Merci Maurice Yévé d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Léa Bertrand qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À bientôt.